Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce jour à l'écoute de votre émission Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. La jeunesse, en raison de ses potentialités, constitue un capital humain et un important levier de développement de la nation. Mais dans la province du Maniema, située presque au centre de la RDC, les jeunes vivent dans la misère depuis des décennies. Le passage de la vie scolaire ou universitaire à la vie active demeure pour la plupart un cauchemar. Les diplômés sans emploi restent de plus en plus longtemps à la charge de leur famille, soit ils se déplacent pour d'autres provinces de la RDC à la recherche d'une vie meilleure. La situation est similaire dans la province de Lomami, issue du démembrement de l'ancienne province du Kasaï oriental. La quasi-totalité de jeunes est au chômage. Les jeunes peinent également à entreprendre au regard de l'enclavement de la région. Dans cette émission, le représentant de la jeunesse du Maniema et de Lomami vont expliquer en détail les défis auxquels les jeunes font face. À la mise en onde de ce magazine, Pierre Diassinois. Une présentation de Sarah Sumbela. Bienvenue à tous.
Okapi, Radio Okapi, Okapi.
Dans la province du Maniema, le chômage, la pauvreté, le manque d'initiatives visant le développement et la promotion de jeunes, pour ne citer que ceux-ci, affectent de nombreux jeunes. Lors de son séjour à Kindu, chef-lieu de la province, Alain Irung s'est entretenu sur ces questions avec deux membres du Conseil provincial de la jeunesse. Suivez.
Voilà, bonjour à vous chers auditeurs et internautes de Radio Okapi. Je suis ici en direct de Kindu, dans la province du Maniema, avec deux membres du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema. Ils vont se présenter tour à tour. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je suis Trésor Lupi Kimanga, président du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema.
Merci cher Trésor, et vous aussi, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Merci beaucoup, moi c'est Ramazan Issefou Sefin, le secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse.
Merci beaucoup mes chers amis. Alors ensemble, nous allons décortiquer les différents problèmes auxquels sont confrontés les jeunes de la province du Maniema, particulièrement de la ville de Kindu. Pour commencer, Président Trésor, dites-nous, quels sont les problèmes que rencontrent les jeunes ici dans la province du Maniema?
Merci beaucoup de la question. Les problèmes que rencontrent les jeunes sont d'abord liés à leur encadrement, surtout que nous sommes les conseils chargés de l'encadrement de la jeunesse. Et c'est dans cet ordre-là que nous constatons que les jeunes ont un problème d'emploi. À part l'emploi, il y a un problème aussi de financement de leurs projets, mais aussi un problème sur le plan politique, c'est la manipulation que nous considérons comme la mauvaise utilisation de la jeunesse par les politiques. Voilà, au moins d'une manière ramassée, les grands problèmes qui prédominent la jeunesse du Maniema.
Alors, le problème d'emploi, les problèmes d'investissement, j'ai visité un peu la ville, j'ai vu la plupart des jeunes qui sont motards, il y a des jeunes qui travaillent ici dans le fleuve, dans le commerce du sable, dans le commerce du bois, qui vendent de l'eau. Mais de manière générale, les quelques jeunes de Kindu, du Maniema, qui investissent, dans quel secteur ils investissent?
Bon, c'est beaucoup plus dans les secteurs privés. Ils sont plus privés.
Informels.
Informels. Et ces jeunes, par rapport à leur survie, ils se lancent dans des petits métiers, des petites activités génératrices, certes, des revenus. Et c'est là par rapport à les risques et périls. Et c'est de cette manière-là que vous avez vu, il y en a qui s'élancent comme motards. Et c'est là, il y a aussi des graves et grandes difficultés, surtout liées à l'excès des taxes. Et vous allez voir que chez nous ici, vous pouvez entreprendre un petit métier, mais ce qu'on vous demande est plus que votre capital. Et c'est là les soucis et qui fait que la jeunesse ne sait plus avancer et avoir des projets de grande envergure.
Mais Stéphane Ramazani, vous êtes le secrétaire. Est-ce que au niveau du Conseil provincial de la jeunesse, quels sont les projets? Vous vous occupez de l'encadrement des jeunes. Quel est, par exemple, est-ce que vous avez par exemple un programme sur six mois en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Oui, dans le Conseil provincial de la jeunesse, nous avons notre plan opérationnel annuel. Et ce plan-là souffre d'un appui. Parce que dans la logique des choses, c'est le gouvernement provincial qui prend en charge la politique de la jeunesse au Maniema. Et nous, en tant que conseil, nous arrivons de mettre en pratique cette politique. Et vous verrez dans notre projet, dans les budgets provinciaux, nous étions ensemble ici dans une conférence avec les ministres provinciaux de la jeunesse. Donc, on a demandé la part de la jeunesse au niveau du budget provincial, c'était 0 franc.
Il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas.
Ce n'est pas prévu.
Ce n'était pas prévu. Donc, les conseillers, c'était le directeur du cabinet du ministre qui était invité. Non, il a dit que dans le budget, il n'y a rien comme montant loué à la jeunesse. Et si vous verrez que, donc c'est tout un budget de toute une province, il n'y a rien qui est réservé à louer à la jeunesse, donc la jeunesse est totalement abandonnée à leur triste sort.
Mais dans votre programme, le budget que vous faites, quelles sont les activités qui sont prévues et ça s'élevait à peu près à combien ce budget-là?
Donc, le dernier budget ici, c'était à 11 500 dollars. Et ce budget-là équivaut pour l'encadrement et l'orientation de certains jeunes dans différents métiers.
Par exemple,
nous avions élaboré un projet par rapport à la menuiserie. Donc, on a constaté que dans la ville, c'est un métier qui attire et qui est totalement consommable. Donc, nous avions jugé qu'on investisse d'abord par là et on verra comment est-ce que les jeunes seront totalement occupés. Par exemple, on peut arriver à encadrer cette jeunesse, mais la politique d'accompagnement pose aussi un problème. Vous pouvez les former, ils sont formés, mais ils vont démarrer comment? Donc, comme les prédécesseurs, mon président va la soulever tout de suite, il a parlé d'abord de la multiplicité des taxes. Même si cette jeunesse est totalement encadrée, lancée sur les marchés, mais s'ils essaient néanmoins de créer quelque chose en termes d'activité, ils sont bloqués par rapport à ça. Et nous sommes l'unique province parmi les anciennes provinces là où on n'a pas vraiment les guichets uniques qui pouvaient néanmoins faciliter cette jeunesse et avoir vraiment des documents appropriés pour qu'ils mènent vraiment leurs activités.
Quand vous parlez de guichet unique, ça veut dire un seul centre, un bureau qui centralise toutes les taxes pour éviter la multiplicité des taxes.
Justement.
Voilà. Trésor, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, parce que par rapport à votre question, il a touché cette problématique-là de notre programmation sur le plan annuel. Et nous avons un grand projet qu'il a parlé dans un secteur de la menuiserie. Et ce grand projet, c'est l'encadrement et formation professionnelle des jeunes. Parce que nous avons constaté que la jeunesse qui s'avère un peu délaissée, aujourd'hui, vous avez vu que nous avons même appelé les ministères qui se disent rien. Quand on n'a rien prévu, c'est qu'on s'entend aussi à rien.
Tout à fait.
Et voilà, nous-mêmes, en tant que conseil provincial, nous nous sommes dit, nous n'allons pas aussi nous abandonner parce que ça vaut de notre rôle. Et voilà pourquoi nous avons initié, à partir de notre programme, un centre qui sera pour l'encadrement et formation professionnelle pour aider les jeunes à des petits métiers, au-delà de les abandonner à leur triste sort et rester dans la rue sans abri et prêt à tout faire. Parce que quelqu'un qui n'est pas encadré, qui n'est pas occupé, il est comme un vent qui partout on peut l'amener.
Exactement.
Et il peut partir.
Alors si je comprends, ce centre-là, c'est vous-même qui l'avez initié avec vos maigres moyens.
Oui, d'abord c'est l'initiative et nous sommes bien sûr en connivence avec la division provinciale de la jeunesse où nous avons initié ce projet et voilà que ça a valu 11 000 et ça fait que
Nous-mêmes, en parlant du montant, nous réservons et nous disons que c'est peut-être, ça serait une réalité ou une utopie. Mais du moins, parce qu'il fallait se lancer.
Il fallait le faire, quoi.
Il fallait le faire, bien sûr.
Alors, vous parlez de la menuiserie.
Oui.
J'entends dans les parages ici, il y a une école professionnelle ici de menuiserie. C'est le bruit qu'on entend hein, du groupe électrogène, des machines qui sont là-bas. Mais la ville de Kindu a un sérieux problème d'électricité.
Oui.
Alors comment vous faites face à ça avec un projet comme celui-là? La menuiserie, c'est d'autres machines qu'il faut brancher au courant,
oui.
Des machines électriques. Et comment vous faites face à ça?
D'abord, la menuiserie, ce n'est qu'un secteur. Mmh. Il y a la menuiserie, on a parlé aussi de l'hôtellerie, okay. Il y a aussi les gardiennages et sécurité, parce qu'il fallait aussi avoir de multiples secteurs qui peuvent intéresser l'un ou l'autre, et tel jeune peut aussi s'accrocher à tel projet, et pour que ça puisse les prendre en charge et les mettre aussi utiles à partir de ce qu'il fait.
Mmh.
Voilà, au-delà de la menuiserie, il y a d'autres secteurs, mais c'est à ce qui concerne la carence ou la rareté de l'électricité. Nous avons prévu, parce que c'est encore un programme, nous avons prévu d'utiliser de l'électricité solaire.
Mmh.
Hein. C'est là par rapport, par exemple, dans les projets de l'informatique, parce que nous avons aussi ces projets là-bas, de l'informatique, on aura aussi des panneaux et des batteries qui peuvent facilement nous aider en attendant que cela puisse être bien initié ou tout simplement bien servi.
Alors, Sefrin, vous, gardiennage, hôtellerie, menuiserie, informatique, est-ce que ce projet-là est déjà concret à ce jour? Vous avez à peu près combien de jeunes?
Donc, jusque-là, c'est comme le président l'a soulevé, c'est un projet, c'est une idée, on est parti sur une idée, mais jusque-là, ce n'est pas encore réalisé.
Okay.
Donc, nous sommes vraiment vers arriver jusqu'on commence vraiment les activités.
Mais alors, à quel niveau ça bloque? Au niveau de la division provinciale de la jeunesse qui n'a pas encore donné les moyens, ou c'est au niveau de la conception et la finalisation même du projet?
Les projets déjà conçus, et c'est lorsqu'on a soulevé dès le début de cette émission, c'est en fonction des moyens.
En fonction des moyens qui ne sont pas encore disponibles.
Donc les budgets encore sur papier, il n'est pas encore financé. Et la division n'a rien. La division, même pour son fonctionnement, ça pose un problème. Même l'achat des papiers au niveau de la division, ça
c'est toujours compliqué.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioCapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioCapi.net, la radio en différé à votre service.
À propos de la situation de jeunes filles et adolescentes, le Conseil provincial de la jeunesse révèle qu'un autre défi à relever reste le mariage précoce. Même si ce phénomène est combattu par plusieurs organisations, les enfants sont bien plus nombreux à en être victimes. Trésor Lupike Manga et Ramazani Sefou, respectivement président et secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse au Maniema, une fois de plus au micro de Alain Hirong.
Quelle est la situation des jeunes filles ici à Kindu? Est-ce qu'il y a des problèmes de mariage précoce comme on les voit dans d'autres provinces? Est-ce que les jeunes filles sont suffisamment scolarisées selon vous, le Conseil provincial de la jeunesse?
Depuis une certaine année, la majorité des jeunes filles au Maniema commencent à se faire scolariser. Donc, comme les problèmes pouvaient le constater, c'est un problème général pour des filles. Il y a d'abord cette timidité pour des filles pour que les filles arrivent même à s'engager. Donc, le problème des mariages précoces, oui, nous sommes en train de lutter par rapport à ça. Ça faisait partie de nos types de mariages. Donc, ici chez nous, comme en RDC, la coutume en général, une fille qui réalise au moins 13 ans, 15 ans, elle pouvait déjà se marier. Donc, actuellement, avec les différentes sensibilisations que nous sommes en train de mener, on est en train de lutter par rapport à ces mariages précoces. Donc, le mariage existe, mais ça fait partie vraiment d'un défi que nous sommes en train de chercher comment relever ces défis-là.
Alors, Trésor, en parlant de mariage précoce, les pesanteurs, c'est quoi? C'est la tradition? C'est la religion? C'est quoi ici au Maniema?
Bon, tellement que vous connaissez, les Maniema, c'est les berceaux de l'islam.
Tout à fait.
C'est, auparavant, c'était
la religion. Mais aujourd'hui, il y a cette avancée. Et c'est l'avancée, c'est par rapport à l'exécutif, le secrétaire a dit, il y a déjà un encadrement. Ce qui pose problème, c'est l'engagement de la jeune fille, surtout dans des activités culturelles. Hein? La jeune fille se voit toujours un peu timide. Il faut toujours la pousser, il faut toujours, certes, l'amener à faire quelque chose. Il y a un peu un manque d'initiative de la part de la jeune fille pour arriver à résoudre ses propres problèmes par elle-même.
Mais est-ce que ça ne devrait pas partir, cette impulsion-là, de la famille, des parents qui ont compris que non, notre fille devrait être poussée, devrait étudier, devrait s'engager dans des activités culturelles, devrait aller un peu plus loin? Est-ce que ça ne devrait pas venir de la famille, ça?
Bon, ça pouvait venir de la famille, il va me compléter l'exécutif.
Tout à fait.
Mais dis-moi, il y a aussi la crainte. Parce que vu la réputation aujourd'hui de la jeunesse en général, là nous mettons aussi les garçons, on s'imagine que lorsqu'on envoie sa jeune fille à être ensemble avec les jeunes garçons, il n'y a que les problèmes de l'amour qui seront traités. Mmh. Pendant que la jeune fille elle-même, en tant que responsable, doit d'abord se garder et doit avoir cette initiative et ce courage d'aller faire quelque chose pour son bien.
Oui, c'est fin, vous pouvez compléter.
C'est le même ordre d'idée. Moi, je pense que ici, chez nous, la famille a déjà fait sa part des choses.
Comment
donc,
ça?
On envoie d'abord sa fille à l'école.
Okay.
Donc, la famille s'engage directement parce que auparavant, la jeune fille était pour garder ses petits frères à la maison, soit faire les travaux du ménage, soit accompagner la maman au champ. Mais actuellement, la famille s'engage directement pour amener la fille à l'école. Donc, aujourd'hui, c'est que le conseil est en train de mobiliser, sensibiliser des jeunes filles et de se faire engager. Donc, même dans notre bureau, on avait vraiment un problème d'engagement
pour avoir une fille à côté.
Donc, on a fait, moi et le président, chercher vraiment des filles courageuses pour qu'elles puissent intégrer le comité. On a tenté de les chercher. Mais trouver une fille pour qui ait vraiment un engagement, ça pose un problème. Nous, d'abord, au niveau du Conseil provincial de la jeunesse et au niveau de la jeunesse, toutes les associations de la jeunesse que vous voyez d'abord, c'est les bénévoles. Donc, il fallait d'abord que les jeunes lui-même, dès son départ, il connaît que là où je pars m'engager, d'abord la première des choses, c'est le bénévolat. S'il y aura quelque chose à gagner, nous on va gagner ça. Nous on est formés pour le conseil, on était venus tellement jeunes, et aujourd'hui le conseil a fait beaucoup pour nous. Pas en termes de gain, mais en termes de formation qui nous permet vraiment de gagner autrement.
Tout à fait.
Justement.
Alors dites-moi, ça fait combien de temps que le conseil provincial de la jeunesse existe ici au Maniema?
C'est depuis les années 2002 que le conseil existe déjà au Maniema. Ça fait longtemps.
Et pendant toutes ces années, comment ça a fonctionné? Est-ce qu'il y avait toujours autant de problèmes de budget qu'aujourd'hui? Vous dites vous-même que vous avez bénéficié de beaucoup de formations. Comment ça se passait avant?
Donc, et on peut dire aujourd'hui qu'on ne minimise pas le travail que les prédécesseurs ont fait. Ils ont vraiment tracé les chemins, que nous sommes venus emboîter sur ça. Et c'est avec notre gestion qu'aujourd'hui le conseil a un bureau. Avant, ça s'est géré, mais le conseil n'avait même pas un bureau.
Okay.
Vous pouvez le constater même à Kinshasa, lorsqu'il y a des grands colloques, des grandes conférences, la province du Maniema n'est pas totalement représentée. Parfois, nos sœurs provinces peuvent envoyer des délégations de 10 personnes, 15 personnes, mais ici, chez nous, pour la prise en charge, ça pose un problème. La dernière fois ici, c'est le président lui-même qui s'est payé les billets pour son propre fonds. Il est parti à Kinshasa pour qu'il participe, pour que la province soit aussi sauvée. Mais si on constatait qu'au niveau au niveau de notre gouvernement, le gouvernement pose toujours un problème, que la province n'a pas de moyens, nous souffrons pour sa gestion, tout ça et consort. Donc à cela, il y a vraiment des avancées par rapport aux années 2010, 2005 okay. Et actuellement. Donc, nous constatons que nous avions totalement avancé. Quel que soit que nous avons des problèmes de loyer, nous avons des problèmes de fonctionnement, mais nous nous battons.
Mais quand vous dites que vous vous battez concrètement, vous faites quoi? Vous avez quelques sponsors qui vous aident? Qu'est-ce que vous faites?
À ce niveau, nous avons des grands de bonne volonté qui ne sont pas politiciens. Et ils sont aussi fonctionnaires, ils viennent du milieu. Parfois, lorsque nous avons des arriérés de notre petit bureau, on peut recourir pour eux, ils nous aident quelque chose. en UPS. Donc,
cet entretien de Alain Yurung avec le représentant de jeunes du Maniema se poursuit dans la deuxième partie de cette émission. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Bana Okapi. De nombreux jeunes dans la province du Maniema et de l'Omami sont confrontés à de nombreux défis, notamment le chômage, la pauvreté ainsi que le manque d'encadrement. On en parle une fois de plus dans cette deuxième partie de cette émission Bana Okapi.
Okapi, Netabendi Yamani.
Le Maniema reste parmi les provinces les plus enclavées de la RDC. Pas d'infrastructure routière pouvant relier cette province à d'autres régions de la RDC. La ville de Kindu, le chef-lieu de la province, est la seule escale à être visitée régulièrement par les lignes aériennes. Le train reliant Kindu à Lubumbashi et à Kalemi ont pratiquement cessé de circuler. Les routes de desserte agricole sont inaccessibles. Difficile d'évacuer les produits vivriers vers les grands centres de consommation. Les jeunes disent attendre beaucoup du nouveau gouverneur et de son gouvernement. Trésor Loupiqué, Manga et Ramazani Sefou sont une fois de plus au micro de Alain Irong.
Voilà. Alors, un autre aspect que nous allons aborder avec vous, la province est totalement enclavée. Alors, mais s'il faut investir, les routes sont abîmées, le train, il ne vient presque plus ici à Kindu, la ville est complètement enclavée. Le seul moyen de transport, ça reste l'avion. Oui. Mais comment s'en sortent les jeunes dans ce contexte?
Voilà, c'est ça les grands défis et c'est les grands problèmes par rapport au développement même des investissements que les jeunes entreprennent. Et c'est là, ça pose un sérieux problème. On espère tout simplement, au seul moyen, c'est l'avion. Et les jeunes démunis, n'ayant pas les moyens, que faire pour faire avancer leurs activités? C'est là que les bas blessent. Et nous ne savons pas, nous sommes, en tout cas, c'est le plus grand problème qu'il faut chercher une solution. Et à notre niveau, Nous regardons vraiment, c'est tout simplement la politique. Hein. Heureusement que nous sommes au début d'un quinquennat. Nous avons déjà un nouveau gouverneur, on attend son gouvernement et comment il sera installé. Et voilà que nous demandons qu'il puisse vite venir pour peut-être sauver cet aspect des choses pour que la province ou les jeunes puissent avoir un aspect au moins comparativement à d'autres jeunes d'autres milliers.
On sait aussi que les jeunes, c'est l'Internet, c'est le téléphone, c'est les contacts, mais ici aussi la connexion Internet, la communication, c'est un sérieux problème. Comment vous faites avec tout ça aussi?
Ah! Donc vous avez maîtrisé déjà la province et c'est déjà ce qui est, je ne sais pas, je manque même de termes appropriés à utiliser pour traduire les problèmes qui me touchent au cœur. Mais sinon, pour ne pas dire que nous sommes en enfer, mais dis-moi, nous avons l'espoir que ça pourra changer et on essaye quand même de nous habituer. Certes, on ne peut pas s'habituer au mal, mais dis-moi, on essaie de faire...
De faire le possible, oui. En fait, pour survivre.
C'est ça.
Alors, c'est vrai, un autre aspect, c'est l'aspect politique. On a vu comment pendant la période électorale, comment les jeunes étaient mobilisés derrière les politiciens. D'autres, on a parlé de manipulation. Ici, au Maniema, comment ça se passe?
Donc, le Maniema comme une province ça fait partie des provinces, de la province et de la République démocratique du Congo. Donc, elle n'est pas épargnée dans cette philosophie. Et c'est ce que nous décrions chaque jour, cette mauvaise utilisation de la jeunesse. Donc, la jeunesse, elle est là. Donc, si la jeunesse est totalement abîmée, moi, je ne sais pas si les politiciens peuvent faire leur politique avec qui. C'est avec cette jeunesse. Qu'aujourd'hui, la jeunesse est totalement utilisée et pour qu'elle soit récompensée, la jeunesse n'est pas récompensée. De quelle manière on peut récompenser la jeunesse? Aujourd'hui, au Maniema, nous n'avons aucune société qui peut engager 500 personnes, monsieur Jean. Aucune. Et chaque année, on a en train de produire des gradués ainsi que des licenciés.
Et qui vont ailleurs.
Ils vont trouver l'emploi où. Et ça, je vous assure aujourd'hui, tout le monde qui quitte la province du Maniema, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils vous disent que moi, je ne reviendrai encore plus là-bas.
Ah bon?
Donc, nos politiciens ont cette lourde charge vraiment de sauver cette jeunesse. Nous n'avons pas une autre province, nous avons que la province du Maniema, qu'elle mérite d'être sauvée. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que lorsqu'on dit que la province du Maniema n'a pas de moyens, pourquoi? Et lorsque quelqu'un, vous le voyez aujourd'hui, il est sans emploi, et lorsqu'il vous embrasse la politique de la province, c'est lui-même qui se fait développer au lieu de faire développer la
qui
province.
Qui devient le plus riche et laisse la province dans la misère.
Il est métaphosé par rapport à ses moyens, il est totalement friqué. Donc la province qui vous fait comme ça, la province aussi mérite mieux pour qu'elle soit aussi traitée.
Tout
et c'est
fait.
Ce message-là que je voulais néanmoins
lancer. Allez-y d'ailleurs parce qu'on est à la fin de l'entretien.
Lancer à la nouvelle équipe qui va diriger la province. Donc la province de Maniema vous accepte. Et d'ailleurs, le gouverneur élu, il a été élu avec 21 voix sur 21 voix. Donc il a eu 100% des voix. Dès son arrivée, il doit savoir que la province de Maniema a un sérieux problème d'infrastructure. Donc, s'il faut commencer, là vous avez posé la question à Trésor, il faut commencer par où pour investir. Nous avons des routes principales qui peuvent nous aider vraiment à désenclaver cette province de Maniema. Imaginez, M. Journaliste, si on nous reliait, nous, Maniema, avec le Sud Kivu, nous, Maniema, avec la province orientale, nous, Maniema, avec le Lubumbashi, avec les rails. Donc, nous, on pouvait être une province heureuse, parce que nous sommes au centre, nous faisons frontière avec plusieurs provinces, on ne veut pas vraiment en train de souffrir et pleurer chaque jour. Donc nous lançons ce message, pas seulement aux autorités provinciales, ainsi qu'aux autorités nationales, que la province du Maniema mérite mieux. Nous devons savoir que si nous voulons investir en termes de routes à caractère national, on investit combien de kilomètres dans la province du Maniema. Aujourd'hui, arrivé dans mon Kasongo natal, c'est à 240 km, c'est la première province agricole, là où les gens cultivent et là où les riz proviennent. Et pour quitter ici, jusqu'à Kasongo, c'est 150 000 francs lorsque vous pouvez payer la tête d'une seule personne.
Wow, donc presque 50 dollars. Hein?
Presque 50 dollars. Mais un sac de riz se transporte aujourd'hui à 150 000 francs. Donc c'est la première année qu'un gobelet de riz quitte de 200 et ça traîne jusqu'à 600 francs. Donc, le marché est totalement vraiment, si vous entrez dans notre marché, vous voulez vous dire que bon, peut-être les gens sont en train de vivre par miracle dédié. Donc, c'est comme ça. Donc, en termes de vie, tout ne marche pas dans la province de Maniema. Donc, les nouvelles autorités, ils doivent savoir que la province de Maniema a un sérieux problème d'infrastructure. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque vous prenez un peu la charge de la province, vous commencez à dire que non, je vais d'abord consulter la jeunesse, que la jeunesse me dit d'abord ses problèmes. Les problèmes se voient.
Les problèmes sont connus.
Les problèmes sont connus, les problèmes sont là. Hein? Au Maniema, il n'y a aucune société qui embauche plus de 300 personnes. Aucune. Je l'ai dit, aucune. Mais comment est-ce que les jeunes seront totalement encadrés dans cette mauvaise politique? Aujourd'hui, les billets pour faire Kinshasa, ça pose un problème. Les bateaux, aujourd'hui il y a des noyades au niveau du fleuve, plusieurs noyades, ça fait au moins 4 pirogues au courant de ces mois et la majorité des gens qui ont perdu la vie là, c'est la jeunesse.
Qui essaie d'aller à gauche, à droite.
Aujourd'hui les gens commencent à se faciliter, il faut pratiquer la voie fluviale pour voyager avec des pirogues, avec des conditions où vous ne pouvez pas vous imaginer.
Vraiment. Alors, nous allons terminer cet entretien avec vous, Trésor, président du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema. Quel est votre message à l'endroit des autorités politiques? Et au Maniema, il n'y a pas que des autorités politiques. Il y a d'autres autorités qui ont d'autres personnalités qui ont émergé dans différents domaines. Quel est le message que vous leur lancez, et quel est le message que vous lancez également à toute la jeunesse du Maniema?
Merci beaucoup. Le message, d'abord, je vais commencer par les autorités. Les autorités, tant politique, civile ou militaire, mais aussi policière, je leur demande de respecter la jeunesse. Respecter la jeunesse par rapport à leurs efforts. Parce qu'ils sont autorités à partir des efforts, de la participation et contribution des jeunes. Mais lorsqu'ils arrivent à un niveau voulu, ils oublient les jeunes
qui
les ont facilités. Et souvent, ils laissent les jeunes dans des risques. Vous pouvez voir
quelqu'un qui vous avait sauvé, qui vous avait facilité, et que vous, vous avez maintenant ce pouvoir-là de l'utiliser négativement, jusque même à causer sa mort. Et ça, c'est le message, tout simplement, de respect mutuel.
Aux jeunes, maintenant, qu'est-ce que vous leur dites ?
Aux jeunes, d'abord, je les félicite. Tout d'abord parce que la séance passait ici des élections. Chez nous, il y a eu cette mauvaise habitude. Lorsqu'il s'agissait des élections, il y avait toujours des crépitements de balles, des jeunes arrêtés, interpellés, voire il y en a qui perdaient leur vie. Mais à la dernière séance ici, nous avons vu que les jeunes un peu, étaient un peu respectués par rapport à leur souci de s'unir au développement de la province. Et c'est là, c'est un processus. Nous avons vu aussi que les jeunes qui commencent à se dédouaner, ils comprennent déjà qu'il y a un danger devant en collaborant avec les politiques. Parce que il y a des résultats aujourd'hui. Il y a de ces jeunes-là qui ont perdu leur vie pendant la campagne. Il y a de ces jeunes-là qui ont perdu leurs travaux, leurs métiers. Et tout simplement parce qu'ils se fouillaient aux côtés des politiciens. Ils se faisaient cette arrogance-là. Et cela fait déjà des exemples et que les autres commencent déjà à comprendre que nous devons nous faire honneur. Et nous devons nous respecter. Et nous devons travailler pour notre développement.
Donc, les jeunes sachent que on ne peut les respecter que dans la mesure où eux-mêmes voilà. Se respectent et se font respecter.
Voilà.
Merci beaucoup, mes chers amis Trésor et Zéphrin. Je vous remercie beaucoup, président et secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci aussi, merci.
Vous venez de suivre Trésor Lopiki et Manga et Ramazani Sefour, respectivement président et secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse du Maniema, qui sont entretenus avec Alain Irong.
Okapi, encore plus d'infos.
Si vous nous prenez en cours, sachez que nous parlons de la misère que traversent les jeunes de Maniema et de Lomami à cause de l'enclavement et du manque d'emploi. Dans la province de Lomami, une province issue du démembrement de l'ancienne province du Kasaï oriental, la situation de jeunes est catastrophique. La quasi-totalité des jeunes est au chômage, à en croire Fabien Mutondo Iyamba, président de la jeunesse de Kabinda, chef-lieu de la province. Aucun jeune n'arrive à entreprendre à la suite de l'enclavement de la région. Fabien Mutondo Eyamba, dans cette interview accordée à Gisèle Cage.
Monsieur Fabien Eyamba, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Alors, vous êtes à Kabinda, plus précisément dans la province de Lomami. Dites-nous, quelle est la situation des jeunes dans la province de Lomami ? Je parle d'une situation générale.
Merci beaucoup, madame la journaliste. La situation des jeunes de la province de Lomami est déplorable, très déplorable, parce que rien, absolument rien, n'a pas été fait pour mettre les jeunes dans de bonnes conditions afin d'exploiter leurs potentialités. C'est notamment la quasi-totalité de la jeunesse est au chômage et le gouvernement tant national que provincial ne crée pas les conditions favorables pour permettre à ces jeunes d'accéder librement à l'emploi. C'est notamment la fonction publique provinciale qui a été créée afin de permettre à la jeunesse d'avoir du travail. Mais nous avons constaté que cette fonction publique provinciale a été mise entre les mains des députés provinciaux bien entendu, qui recommandent leurs cousins, nièces, neveux et consorts en déconsidération totale de la jeunesse. Il y a également la problématique liée à l'entrepreneuriat de la jeunesse qui est encore déplorable parce que au niveau de la province, il n'y a aucune base solide pouvant inciter la jeunesse à entreprendre. Et nous avons également à notre niveau mené des lobbying auprès du gouvernement provincial pour que l'entrepreneuriat soit mis au centre des activités du gouvernement. Et également le gouverneur de la province sortant avait créé une caisse provinciale d'entreprise de la jeunesse qui n'a pas été mise en mouvement jusqu'alors. Et ce qui met encore une fois la jeunesse dans une situation déplorable. Et aussi l'inattention institutionnelle et aussi la manipulation politique. Et comme vous l'avez peut-être entendu par d'autres bouches, La jeunesse de l'Omami est vraiment au centre de la politique des acteurs politiques de la République du coin. Les politiciens du coin descendent en province pour manipuler les jeunes et au moment de partage de cadeaux, ils se contentent de prendre leurs frères et sœurs au détriment de la jeunesse. Donc, ce qui nous met encore en difficulté totale. Et la seule manière pour la jeunesse de se retrouver, c'est de faire les taxis moto, c'est de faire des petits shops, des petites boutiques. Ce qui est encore très grave en ça, c'est le fait que quand un jeune monte une petite boutique, le gouvernement provincial, par les biais de sa régie financière, traque ces jeunes avec des taxes et impôts qui dépassent même son capital, ce qui nous met encore une fois en difficulté. Donc, à ce qui concerne la jeunesse de la province de l'Omami, tout est à refaire et rien n'a été fait jusque depuis que nous avons, la province a été démembrée jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour que la jeunesse se sente concernée dans le développement de la province.
Vous dites qu'il y a des jeunes qui se lancent dans le taxi moto. Parmi eux, il y a des jeunes diplômés?
Effectivement, même des licenciés. J'ai des collègues licenciés en droit qui sont dans les taxis moto. Imagine, Madame Gisèle, faire cabine en Bougimaï, 150 km, les taximens demandent 50 000. Quand vous parcourez les tronçons, vous trouvez plus de 18 barrières. Donc, dans 50 000, les taximens enlèvent d'abord 18 000 pour payer 1 000 francs par barrière. Imaginez ce qu'il reste avec. Et dans ça, il faut enlever les carburants, 25 000 francs. Donc, ils travaillent pour ne rien gagner. Donc, des conditions sociales ne permettent pas à la jeunesse de se lancer comme dans d'autres provinces où on voit des jeunes très mobiles et très actifs dans les processus du développement.
Ces barrières sont entretenues par qui?
Ces barrières sont entretenues par le gouvernement provincial et aussi par la PCR et la FARDC. Le gouvernement provincial a mis 3 péages sur le même tronçon. 3 péages, imaginez.
Et alors qu'il n'y a pas de route praticable?
Alors il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route praticable. Il y a également la PCR, la police de circulation routière. Quand vous arrivez du côté Katanda, il y a pratiquement 6 barrières de FARDC, où à chaque barrière, il faut payer 1000 francs, 1000 francs.
Mais donc, pourquoi ils font payer cet argent? C'est quoi la justification?
Il y avait des petits soucis de conflit de terres du côté Katanda. Alors, pour garantir la sécurité, le gouvernement du Kasaï-Oriental avait mis la FARDC là-bas. Mais cette FARDC, au lieu de faire son travail, il traque les taximens, les jeunes taximens qui quittent des cabines avec des moteurs leurs clients pour qu'ils donnent à chaque passage 1000 francs. Ce qui décourage encore la jeunesse qui est dans ce secteur de pouvoir travailler. Et encore plus grave, Madame Gisèle. Imaginez une autre manière que la jeunesse trouve pour essayer un peu de se stabiliser, c'est entrer dans des associations de malintentionnés, c'est-à-dire des associations qui chargent et déchargent les camions qui viennent de Mbujimayi et d'ailleurs. Et là, dans ce secteur, chaque député provincial a créé son association où il a mis ses gens. Donc il n'y a plus d'associations naîtres ou des associations qui existaient créées par la jeunesse pour l'encadrement de la jeunesse. Cette fois-ci, avec la politique de la province, chaque député provincial a créé une association manutentionnelle pour se faire de l'argent. Ce qui nous met encore une fois en difficulté de pouvoir vivre dans la province de l'Omami.
Donc, il n'y a que les motos qui relient la province de l'Omami à la province du Kasaï oriental?
Effectivement, il y a des motos. Les jeeps sont des jeeps privés. Des organismes internationaux qui font les trafics par rapport à leurs activités. Mais pour aller en bougement, il faut aller par moto. C'est rassurant qu'ils prennent la jeep, la route n'est pas bonne.
Mais est-ce que dans le budget provincial, il y a quand même un budget consacré à la jeunesse?
Effectivement, les 3 exercices budgétaires passés, on avait prévu un montant de 29 millions pour l'encadrement de la jeunesse. 29 millions de francs congolais. Imaginez la province de l'Omami avec son immense étendue. Avec 29 millions, on pouvait encadrer la jeunesse de manière qu'il faut. Non. Et cet argent n'a pas été affecté comme prévu. Nous avons eu à saisir les COFIN à l'Assemblée provinciale pour interpeller le gouvernement provincial afin que l'argent soit mis à la disposition de notre ministère. Enfin, nous avons un ministre provincial de la jeunesse pour qu'on puisse affecter dans les comptes de l'entreprise de la jeunesse. Ce qui n'a pas été fait. Donc, nous nous retrouvons dans cette situation où on vit, donc on dirait on est à l'est de la République pour tenir à l'Omami. Parce qu'il faut casser les nerfs, il faut être fort, avoir des nerfs solides pour vivre en tant que jeune dans la province de l'Omami, parce que les conditions de vie ne nous permettent pas de faire comme ailleurs.
Ok, mais est-ce que y a-t-il des jeunes qui se lancent par exemple dans l'entrepreneuriat?
Effectivement, c'est pourquoi nous, à notre niveau, avec le Conseil national de la jeunesse, nous avons mis en place des cadres de réflexion pour encadrer la jeunesse dans les secteurs d'entrepreneuriat. Parce qu'on s'est dit, si un jeune ne sait pas concevoir un projet, il ne sait pas comment l'exécuter, comment vous allez les lancer dans ces secteurs-là? Ça veut dire, nous avons fait 3 ou 4 séances de formation. Il y a une séance de formation. À Kabine, il y en a eu 3. Il y a aussi le gouvernement provincial qui a organisé il y a 3 mois une séance de formation sur l'entrepreneuriat des jeunes avec tous les jeunes responsables de la province. Et nous pensons qu'avec ces séances d'encadrement, d'ici peu, nous allons essayer un peu de lancer la jeunesse vers là. Parce que la seule difficulté que nous avons est que, avec la manipulation politique qui s'est installée de manière irrationnelle à Lomami, les jeunes pensent que aller en politique, c'est mieux que faire autre chose. Mmh. Alors nous avons dit, on met en place ce cadre de réflexion pour essayer un peu de conscientiser la jeunesse afin de quitter de la politique où ils sont en train d'être distraits vers l'entrepreneuriat. Parce que s'il faut qu'on se prenne en charge, c'est par l'entrepreneuriat que nous pouvons s'auto-financer.
Ok, mais au oui. regard de tout ce que vous venez de dire, bon, je voudrais peut-être que vous puissiez résumer oui. quels sont les besoins de la jeunesse de la province de Lomami.
De manière urgente que oui. la jeunesse de Lomami peut présenter en ce moment, c'est d'abord l'installation de certains services de l'État, notamment l'INPP, l'Institut National de Préparation Professionnelle. Uh-huh. C'est quand même un service qui peut commencer à former les jeunes, les chauffeurs, pour commencer quand même à conduire les véhicules et se retrouver, former des jeunes sur les ordinateurs, afin de leur permettre de se lancer correctement dans l'entrepreneuriat. À Lomami, il n'y a pas ces services-là. Comment nous pouvons faire alors que les services de l'État qui sont censés encadrer les jeunes ne sont pas installés à Lomami. Il y a par exemple le service ONEM, l'Office National de l'Emploi. C'est un service, vous voyez, quand les partenaires lancent des enquêtes à Lomami, les jeunes de Lomami ont difficile à accéder à ces enquêtes-là parce qu'ils n'ont pas de carte d'ONEM. C'est pourquoi il y a un moment là, il y a même des problèmes où les jeunes de Lomami chassaient les enquêteurs qui venaient d'ailleurs. Enfin, ils se disaient comment nous sommes ici, nous souffrons, nous voyons les gens venir de Kananga, de Kin pour effectuer des enquêtes à Lomami et à ramener l'argent ailleurs. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de carte d'ANEM pouvant leur permettre d'accéder à ces enquêtes-là. Donc, si on nous installe ces deux services-là, et aussi l'État nous met des conditions d'accès à l'emploi, ça va nous permettre d'aller et de goûter aussi à la vie, comme font les autres jeunes d'autres provinces.
Donc, à ce jour, il n'y a aucun jeune qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il n'y en a pas encore.
Les gens, jusque-là, il n'y en a pas encore. Nous nous débrouillons autrement, pas de manière correcte à ce qu'on sait l'entrepreneuriat. Ce sont des jeunes, imaginez, quelqu'un peut faire 3-5 poulets de chair. Il vend ça à 25 000 francs. 5 poulets doivent être 125 000 francs. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est juste une manière de se débrouiller.
Mais quel est l'état de route? S'il faut parler un peu des infrastructures, quel est l'état des infrastructures dans la province de Lomami?
Non, l'état de nos routes ne sont pas bons. C'est pourquoi nous sommes enclavés. C'est pourquoi vous souvenez souvent que Lomami est enclavé parce que les routes ne nous permettent pas de communiquer avec les autres entités. Lomami est voisin de Olomami, de Sankuru, de Maniema, du Kassar oriental. Mmh. On ne sait pas communiquer parce que les routes ne sont pas bonnes. C'est peut-être la route de Mbujimayi et Mwenedit qu'on convenait d'asphalter par l'entreprise grecque 7. La première route à être en bon état à Lomami, c'est celle de qui relie Mwenedit et Mbujimayi. La route principale, la route nationale numéro 2, qui va de Mbujimayi jusqu'à Bukavu, elle est dans un état de développement très avancé. Même à pied, c'est difficile de marcher. Des routes de cette agricole,
voilà.
Il y avait un projet. Le gouvernement national avait mis suffisamment de moyens pour l'entretien des routes à dessert agricole. Au niveau du gouvernement provincial, le gouverneur sortant a voulu satisfaire les députés provinciaux. Les députés provinciaux se sont créés des associations imaginaires pour gagner les marchés. Chaque député devrait entretenir des routes qui vont vers chez lui. Ils ont créé des associations et des entreprises imaginaires. Ils ont gagné les marchés, ils ont empoché l'argent et ils n'ont rien fait. Et les routes sont à l'état initial alors que l'argent a été déboursé pour leur entretien.
Comment ça se passe alors l'évacuation des produits vivriers vers le grand centre de consommation?
Ça se fait par vélo. C'est ça qui justifie la hausse de prix. Quelqu'un prend au moins 50 mégas de maïs, mais il doit parcourir 150 km pour ramener ça à cabine. Il peut faire 2 semaines ou 1 semaine et demie. Donc ça se fait par route. Les camions qui osent ou qui vont pour aller récupérer les maïs, les haricots, les rachis dans les recoins de la province, ne reviennent pas. Beaucoup de ces camions ne reviennent pas. Ils tombent en panne, ils font des mois et des mois en route parce que les conditions de praticabilité des routes ne sont pas bonnes. C'est dans cette situation-là où on se retrouve en province.
Okapi, Radio Okapi.
Toujours dans la province de Lomami, Fabien Mutondo et Yamba parle cette fois-ci de la situation de la jeune fille, de mariage précoce, de l'accès aux soins de santé et de l'exode de jeunes vers d'autres provinces du pays. Fabien Mutondo, une fois de plus, au micro de Gisèle Cage.
Monsieur Fabien Eyamba, y a-t-il des entreprises, par exemple, privées, à part bien sûr les organisations internationales, dans la province de l'Omami?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est dû aussi au manque d'électricité. L'Omami, il n'y a pas d'électricité. Une entreprise viendra faire quoi dans une entité où il n'y a pas de courant?
Il n'y a même pas de supermarché.
La première fois que j'ai vu les supermarchés, c'est à Kine, quand j'ai voyagé vers Kine. Il n'y en a pas ici, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a des petits projets qui ont été initiés, mais jusque-là, rien n'a été fait.
Je voudrais aussi poser une autre question, c'est en rapport avec... c'est vrai que vous avez énuméré la situation générale de la jeunesse aussi, et de cette entité, mais je voudrais savoir quelle est la situation des jeunes filles, par exemple. Est-ce que il y a les jeunes filles sont de plus en plus engagées dans la société, elles ont des activités, est-ce que la jeune fille est impliquée quand même dans le développement de la province de l'Omami?
Bon, la jeune fille n'était pas encore impliquée totalement. C'est récemment ici avec nos amis de la société civile qu'on a essayé avec de créer des structures féminines pour l'encadrement de la jeune fille. Alors, dès le début de cette année, nous avons vu quand même, comme la CIFIDI par exemple, Synergie des femmes, tout ça, nous avons vu des structures féminines qui se sont activées afin de récupérer la situation de la jeune fille, parce que la jeune fille à l'Omami ne s'intéressait pratiquement pas au processus de développement ou à tout ce qui se fait dans la province. C'est récemment ici, avec l'encadrement de la société civile, que les structures féminines ont commencé à s'activer pour que nous, la jeune fille ou les jeunes filles, puissent s'intéresser à la vie de la province.
Y a-t-il des cas de mariage précoce des adolescentes?
Oui, oui, c'est pourquoi quand vous passez dans nos parcs, presque partout, vous trouvez que les cas de violences sexuelles sont nombreux. Donc vous verrez, sur 10 dossiers, vous allez trouver que les cas de violences sexuelles sont à 8 dossiers. Il y a ces cas-là, je sais que certains organismes internationaux en cette matière sont en train de sensibiliser et nous espérons que les cas de mariage précoce vont diminuer. Mais jusque-là, il y en a encore.
Mais pourquoi c'est occasionné par... la coutume ou par la pauvreté?
C'est tout la pauvreté. Il y a eu à un moment là où les parents pensaient que investir dans une fille, c'est passer le temps, il faut investir dans les garçons. Alors cette situation qui laissait les filles désespérées, alors pour s'attraper un savant, pour s'attraper un habit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se débrouiller, trouver un garçon qui peut l'aider à avoir tout ça. Il y a eu beaucoup de cas comme ça qui ont poussé des filles à attraper des mariages de manière précoce. Et aussi, ici chez nous, donc quand vous prenez nos textes légaux, ils sont totalement contraires à la philosophie de notre coutume. Donc chez nous, ici, à partir de 14 ans, à partir de 13 ans, une fille peut avoir des enfants. Alors, il fallait du temps pour que la population puisse comprendre qu'il y a des lois du pays qui interdisent aux parents de marier des filles. Alors, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Et nous sommes pendant ces moments-là de sensibilisation et de conscientisation pour que cette situation puisse être... oublié et éradiqué de manière définitive.
Et l'accès à l'éducation, est-ce que la jeune fille a cette facilité?
Oui, surtout avec l'avènement de la gratuité à l'enseignement, la jeune fille a eu l'accès facile aux études.
D'accord. Oui. Sur le plan sanitaire, est-ce que la population a l'accès, bon, sans pour autant parler seulement de la jeunesse, mais si on peut parler de la population en général, a-t-elle la facilité d'accéder aux soins médicaux? Y a-t-il aussi des cas de malnutrition dans la province de l'Omami?
Il y en a. D'ailleurs, hier, j'étais à l'hôpital pour voir un ami. Je vous dis, j'ai trouvé des enfants, des gens, quand même, vous sentez qu'ils ont un problème de malnutrition. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous, à l'Omami, ici? L'Omami avait été réputée une province qui, quand même, qui donnait des soins de santé de qualité à sa population, parce qu'on avait beaucoup de partenaires qui finançaient nos hôpitaux et les centres de santé en médicaments et en financement. Donc, le coût des soins était abordable. Donc, au lieu de payer 300 000 francs, avec des partenaires que la santé de l'Omami avait, on payait de 23 000, de 18 000.
Okay.
Alors, depuis le début de cette année, tous les partenaires se sont retirés. Donc, ce qui voudrait dire
pourquoi?
Que nos hôpitaux et centres de santé, le contrat a pris fin.
Okay.
Leur contrat a pris fin, se sont retirés. Ce qui a mis les hôpitaux et centres de santé, non seulement à avoir un problème d'approvisionnement en médicaments, mais aussi à hausser le prix des soins de santé. Imaginez quelqu'un qui payait 12 500 pour se faire soigner, commence à payer 140 000, 160 000. Ah. Ce qui voudrait dire qu'automatiquement, il ne saura pas venir se faire soigner comme il le faisait. Il va commencer à s'auto-prise en charge lui-même à la maison. Ah. Ce qui peut.
Donc, il recourt à l'automédication.
À l'automédication, effectivement. Mmh. Alors, c'est cette situation-là qui nous a mis quand même en difficulté. Alors qu'il y a 6 mois, on se faisait soigner de manière correcte. Mais depuis que certains partenaires se sont retirés et ne financent plus les hôpitaux, et n'encadrent plus les hôpitaux de la province, alors nous nous retrouvons dans la situation telle que les soins de santé sont revus à la hausse et que les gens ne savent plus se faire soigner correctement. C'est ce qui fait qu'on puisse enregistrer beaucoup de cas de décès. Même nos mamans commencent à mettre au monde à la maison au lieu d'aller à l'hôpital où ça coûte énormément cher. Alors, il y a des complications.
Parlons de la malnutrition.
Effectivement, il y avait des partenaires qui approvisionnaient les zones de santé en plein pinette. Alors, ce qui permettait aux centres de santé de prendre bien en charge les enfants malnutris. Mais pour le moment, quand vous passez à l'hôpital, vous trouvez que les enfants qui, chaque matin, prenaient un gobelet de lait, à 12 heures, ils prenaient quand même un bon foufou, ils sont délaissés. Donc, les parents, non seulement ils doivent payer les soins, ils doivent aussi nourrir les enfants, alors qu'à la maison, ils n'ont pas si les nourrir, c'est pourquoi ils ont amené à l'hôpital. Donc, ça nous fonce encore de plus en plus dans les cas de malnutrition. Alors, il faut, par exemple, j'ai aimé quand même récemment ici notre gouvernement provincial qui a essayé un peu de doter à certaines organisations locales des semences pour améliorer la culture. Alors, on espère que cette saison ici, on va augmenter notre production locale et que ça va pallier à la situation de malnutrition. Parce que depuis un moment, les macas de maïs qui coûtaient 8000 francs il y a un mois, on commence à l'acheter à 3500. Ce qui nous laisse croire que d'ici 2 mois, nous pouvons l'acheter à 2000, à 1500 francs. Ça va quand même nous aider à pallier la situation de malnutrition.
Sur place, les produits manufacturés, c'est par où que vous ravitaillez?
Nous nous ravitaillons au Kassai Oriental.
Mais une autre question qui me vient en tête, au Kassai Oriental, tout comme au Kassai Central, il s'observe aussi un phénomène où les jeunes, après leurs études, ils préfèrent quitter la province pour ailleurs, pour d'autres provinces, à la recherche du travail, d'une meilleure vie. Oui. Est-ce le cas dans la province de Lomami? Y a-t-il des jeunes qui préfèrent carrément quitter, fuir la misère pour aller ailleurs?
Effectivement. D'ailleurs, quand vous arrivez à Lubumbashi, à Kolwezi, beaucoup de jeunes là qui font les taxis, ce sont des jeunes venant de la province de Lomami. On a perdu énormément de jeunes qui sont partis de Lomami vers Kolwezi, vers Lubumbashi. La jeunesse s'imagine que c'est dans Lubumbashi, à Kolwezi, où ils peuvent vivre de manière humanitaire. Chaque jour, nous enregistrons les cas de départ, dans l'exode des jeunes de Lomami vers Lubumbashi. Parce que c'est surtout qu'ils vont en moto. Ils vont en moto, vous allez trouver des motos avec six jeunes sur la moto en train d'aller à Kolwezi. Parce que ils trouvent ça quand même le moyen de transport le plus rassurant pour arriver à Lubumbashi. Même nous qui sommes restés à la pointe de Lomami, les autres qui sont ailleurs se moquent de nous. Ils disent, vous faites quoi pour vivre là-bas? Il serait mieux de quitter également, de nous rejoindre ici, où vous pouvez quand même chaque jour avoir 2 ou 5 000 francs pour nourrir la famille. Parce que les parents nous ont fait étudier, ils attendent tout de nous.
Fabien Mutondo et Yamba, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes le président de la jeunesse de Cabinda dans la province de Lomami.
C'est moi qui vous remercie, mais madame la journaliste.
C'est la fin de cette émission sur Radio Okapi. Les provinces du Maniema et de Lomami restent le plus enclavées de la RDC. Le chômage, la pauvreté, le manque d'infrastructures routières adéquates aggravent les conditions de vie de milliers d'habitants, plus particulièrement de jeunes. De nombreux jeunes diplômés préfèrent quitter leur milieu pour d'autres provinces de la RDC à la recherche d'une vie meilleure. Dans cette émission, vous avez suivi Trésor Lupike Manga et Ramazani Sefou, respectivement président et secrétaire exécutif du Conseil provincial de la jeunesse au Maniema, ainsi que Fabien Mutondo Eyamba, président de la jeunesse de Cabinda dans la province de Lomami. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiokapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. Alain Hirung et Gisèle Cage ont coproduit cette émission, une réalisation de Stanislas Diomi, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. mise en onde de Pierre Diassinois. Une présentation de Sarah Sombella. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.